Mesdames, Messieurs, la revue parlée, sixième et dernière étape du cycle Penser la littérature aujourd'hui, animé par Jean-Pierre Salgas, qui nous permet ce soir ce dialogue entre, à la droite de Salgas, Gérard Genette et à sa gauche, Renaud Camus. La parole est à Jean-Pierre Salgas dès qu'il se sera assis. Il a eu quelques petits problèmes de train qui l'ont retardé. Jean-Pierre Salgas.
Merci. Pardon. Oui, donc merci d'être venu pour ce dernier rendez-vous de ce cycle Penser de la littérature aujourd'hui. Je rappelle que le titre de la séance de ce soir est Qu'est-ce qu'un auteur ? Enfin, peut-être ce titre sera-t-il contesté ou non tout à l'heure, enfin on en reparlera. Je rappelle en tout cas quel était l'objectif de ce cycle au départ et quel a tenté d'être son objectif tout au long, puisque certains d'entre vous y ont assisté, mais certains d'entre vous n'y ont pas assisté. Il s'agissait d'une certaine façon de prendre acte, en un certain sens, de ce qui pouvait sembler un certain déplacement dans les conflits, je dirais, canoniques qui avaient structuré le champ littéraire ou le champ de la pensée sur la littérature en France depuis le début du siècle, sinon depuis le début du siècle, en tout cas depuis les débuts de ce qu'on a appelé la Nouvelle Critique, puisque d'une certaine façon d'ailleurs les débuts de la Nouvelle Critique coïncident avec la parution du texte qui lui date de 1909 de Proust contre Sainte-Beuve. Autrement dit, il s'agissait en un certain sens d'essayer de voir où on en était aujourd'hui dans le conflit, donc on pourrait résumer de ce double nom Sainte-Beuve contre Sainte-Beuve. Ou d'un autre double nom qui serait évidemment la querelle Barthes-Picard, par exemple. Enfin bon, ces conflits ayant fait date. Je vois que manifestement, il y a une concurrence vocale. Non ?
C'est pas moi.
Non, je sais que c'est pas vous. Ça pourrait être vous, parce que effectivement, je sais que la dernière fois que vous avez été sur cette tribune, vous avez chanté, si mes informations sont bonnes. Ce n'est pas vous. Bon. Donc, on pourrait le faire chanter aussi dans tous les sens. Mais bon, donc essayons de pour savoir s'il chante ou non. Donc je disais déplacement Sainte-Beuve contre Sainte-Beuve. Savoir où on en est aujourd'hui de ces questions. Le deuxième pari de ces six rencontres qui se terminent aujourd'hui était de mettre face à face, ensemble, des gens dont c'est un jeu collectif, dont je pensais qu'ils pouvaient avoir des choses à se dire, alors que tout le monde répète chaque matin que la parole n'est plus possible, c'est l'une des figures contemporaines de la doxa, que la parole ne serait plus possible entre des théoriciens des écrivains. Donc je pensais que toutes les personnes qui pouvaient se trouver réunies étaient éventuellement des gens qui pouvaient avoir des choses à se dire, mais qui souvent, et c'est je crois le cas ce soir, ne se connaissent pas particulièrement en dehors de justement des œuvres. Enfin, c'est-à-dire que évidemment Gérard Genette a lu Renaud Camus, il l'a cité dans plusieurs de ses livres. Renaud Camus a lu Gérard Genette, mais ils ne sont pas, s'ils ne m'ont pas menti l'un et l'autre, des familiers des face-à-face de ce type. Voilà, donc voilà un peu quel était l'esprit de ces rencontres. Je le rappelle aussi parce que trois de ces rencontres, d'une certaine façon, ont déjà posé sous d'autres facettes, ont déjà permis d'aborder sous d'autres facettes et avec trois fois deux autres interlocuteurs, ce qui sera le problème de ce soir, à savoir l'auteur, éventuellement le retour de l'auteur après qu'il ait été déclaré mort. Ces trois rencontres étaient, je le rappelle, la première qui mettait en scène Pierre Bourdieu et Michel Chailloux, la seconde qui mettait en scène Philippe Lejeune et Pierre Michon, et la quatrième qui mettait en scène Pierre-Marc de Biasi et Philippe Sellers. En effet, il me semble d'une certaine façon qu'au-delà de ce qu'on pourrait appeler le véritable mouvement de restauration, au sens Louis XVIII du terme, qui se produit aujourd'hui dans pas mal de zones de la littérature ou de la philosophie ou de la pensée en France, il y a effectivement un certain nombre de nouvelles formulations qui, elles, n'appartiennent pas à cette restauration et qui reposent à nouveau frais la question de l'auteur en littérature. Et c'est celles-ci qui ont été abordées lors de ces trois rencontres. Je citerai pour mémoire la question de ce qu'est l'auteur entendu dans le cadre d'une sociologie de la littérature entendue au sens de Bourdieu, c'est-à-dire une sociologie du champ où l'auteur est quelqu'un qui a une stratégie à l'intérieur d'un champ. Il ne s'agit pas évidemment d'une restauration du sujet ancien. Il y a la question l'autobiographie telle qu'elle est placée par quelqu'un comme Philippe Lejeune au centre des études littéraires aujourd'hui, et telle qu'elle est, à mon sens, de façon très très différente, posée par la littérature contemporaine dans le retour dans la littérature contemporaine, à la fois de la question autobiographique, et Renaud Camus, de ce point de vue-là, est un des principaux acteurs de ce retour, et aussi la question de ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Barthes, le retour du biographème, l'arrivée du biographème dans la littérature contemporaine, c'est-à-dire au fond d'un certain nombre d'éléments biographiques qui vont fonctionner comme éléments de fiction. Enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus. Enfin, il y a bien évidemment ce trouble introduit dans les rapports que l'on pouvait penser régler, donc côté Proust, dans les rapports de l'œuvre et de l'homme, le trouble introduit par toute la critique génétique. L'une des questions de ce soir sera de savoir si la critique génétique est aussi une critique génétique. Par la critique génétique et cette l'idée, au fond, d'une biographie du texte qui est là comme une zone intermédiaire où se joue quelque chose qui n'est ni de l'œuvre ni de l'auteur tout à fait. Voilà. Donc voilà pour ce qui est d'une certaine façon, je dirais, l'exposé des motifs. L'exposé des intervenants, je ne me donnerai pas le ridicule de le faire devant vous, puisque vous êtes tous, j'imagine, des lecteurs de tout ou partie des œuvres des deux écrivains qui m'entourent. Je rappellerai juste néanmoins, concernant le sujet de ce soir, que Gérard Genette a été probablement celui qui a donné dans les années 60, et particulièrement en 66 et 69, pour ce qui est des livres, enfin des deux grands recueils d'articles qui s'appelaient Figure, a posteriori nommé un, dès lors qu'il y a eu un Figure 2, et donc Figure 2, dans ces deux grands recueils d'articles, celui qui a probablement donné le plus clairement forme et contenu à cette, ou forme de contenu, à cette notion justement de l'absence de l'auteur dans la pensée de la littérature, à la suite évidemment de Borges et de Valéry, auteurs qu'il citait à l'époque dans je pense tous les articles de Figure, et on pourrait trouver en particulier un article dans Figure 1 qui s'appelle L'utopie littéraire, et si j'arrive à retrouver mes papiers suite à mes voyages ferroviaires, on pourrait retrouver dans ce texte qui s'appelle L'utopie littéraire une citation parmi d'autres. D'ailleurs, je change de citation en cours de route. Excusez-moi. Bon, on pourrait donner diverses citations de ce texte, l'utopie littéraire, mais j'en citerai une, par exemple, qui situe tout à fait le problème à l'époque. À la suite de Borges et de Valéry, Gérard Genette déclare « La jeunesse d'une œuvre dans le temps de l'histoire et dans la vie d'un auteur est le moment le plus contingent et le plus insignifiant de sa durée. » Et de façon générale, ce texte est consacré à une exposition à partir de la fable borgésienne de l'idée que tous les écrits pourraient être le produit d'un seul et même auteur ou scripteur, si vous voulez. Bon, je crois qu'il y a quelque part aussi cette formule qui définit clairement l'enjeu à ce moment-là, qui consiste à dire qu'Homère ait été aveugle ou pas, peu importe. Gérard Genette, je crois, a été, et dans ses volumes de Figure en témoignent, celui qui a formulé avec le plus de force, probablement, cette utopie littéraire justement qui a soutenu bon nombre de travaux pendant une trentaine d'années. D'autre part, je pense qu'il a été, enfin peut-être le démentira-t-il, enfin l'un de ceux qui a le plus continuellement maintenu cette vision borgésienne de la littérature, puisque les trois grands livres mimologiques, Palimpseste et Seuil, d'une certaine façon, sont l'illustration sur un matériau immense de cette idée-là. Quoique, on peut se demander si justement Seuil, qui est voué à l'exploration du paratexte, c'est-à-dire de tous les entours d'une œuvre qui vont du titre à la quatrième de couverture, à la dédicace, etc., justement, ne réintroduisent pas, d'une façon ou d'une autre, la question de l'auteur. Pour ce qui est de Renaud Camus, je me bornerai à rappeler qu'en un certain sens, il a probablement, je dirais à mon sens, soutenu la même position, mais strictement à l'envers. Un peu peut-être comme Stendhal, tel que le décrivait Gérard Genette dans Figure 2. Il y a un très bel article qui s'appelle Stendhal, entre guillemets, enfin c'est moi qui dis entre guillemets, mais enfin, le mot est évidemment entre guillemets, dans Figure 2, où Gérard Genette, à l'époque, montre très bien comment Stendhal, finalement, en faisant trop dans le pseudonyme, dans la multiplication des pseudonymes, dans l'inachèvement des œuvres, dans leur pluralité, etc., presque d'une certaine façon fait par excès, enfin ce que d'autres auteurs réalisent par excès, quelque chose qui est peut-être le revers de ce que certains grands auteurs ayant visé l'anonymat ont tenté de leur côté. Et il me semble que Renaud Camus, dès ses premiers livres, qui était, par deux procédés finalement, qui étaient d'un côté une sorte d'intertextualité générale, puisque vous déclariez au terme du premier livre passage que, grosso modo, l'essentiel du livre n'était pas de vous, et par un autre procédé, donc il s'agissait d'une sorte de montage de citations plus ou moins rewritées, par un autre procédé qui est une hétéronymie forcenée, puisque vous avez multiplié jusqu'à une date récente, même pour des livres qui étaient tout à fait différents de ces premiers, les hétéronymes, vous jouiez probablement quelque chose qui était la même chose à l'envers. Voilà. Ceci pour dire, et alors, que si je parlais d'un possible infléchissement de Gérard Genette avec Seuil, on pourrait se demander si Renaud Camus n'infléchit pas là aussi dans les journaux qu'il a publié récemment, dans la série des élégies qu'il publie aussi, alors là, centrée autour de Renaud Camus, l'un de ses hétéronymes, justement, qui se trouve coïncider avec son nom propre, n'infléchit pas, en un certain sens, sa position première de quant à une disparition de l'auteur. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est du terrain de cette discussion. Je vais d'abord donner la parole à Gérard Genette, justement afin qu'il précise peut-être où il en est aujourd'hui par rapport à cette question de la disparition de l'auteur. Est-ce qu'il y a changement de position par rapport à cette question, et éventuellement lui demander aussi de savoir s'il peut, non seulement, on ne sait pas évidemment seulement où il en est, genre oui, non, j'en suis là, mais c'est surtout peut-être essayer de nous tracer l'histoire des raisons qui l'ont amené à un certain moment à choisir un certain angle d'attaque dans la pensée de la littérature, et aujourd'hui dans d'autres contextes, avec d'autres adversaires, d'autres partenaires aussi, éventuellement dire autre chose, voilà. Excuse, j'ai parlé beaucoup trop longtemps.
Merci, je vais en faire autant. Je veux dire d'abord que la question qui nous est posée, donc sous cette forme, qu'est-ce qu'un auteur, a une caution prestigieuse, bien sûr, qui est celle de Michel Foucault, puisque c'est le titre, je pense que nous sommes quelques-uns à le savoir ici, c'est le titre d'une célèbre conférence qu'il a faite avant 1969, ou au début de 1969 à la Société française de philosophie, et qui a d'ailleurs été plus tard, en 1979, traduite en anglais sous une forme augmentée dont j'avoue ignorer si elle existe en français. Enfin, donc c'est ce texte auquel je me référerai une ou deux fois. Je le connais sous la forme de sa version anglaise et augmentée. Malgré cette caution, ou peut-être à cause d'elle, il me semble que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre sans l'interroger elle-même, c'est-à-dire sans s'interroger en amont sur la question préalable, qu'en est-il de la question « qu'est-ce qu'un auteur ?». Alors évidemment, il y faudrait quelques heures, mais pour faire un peu plus court, je dirais qu'à mon sens, cette question en coagule un peu confusément deux autres que je crois relativement distinctes. Ces deux questions sont, premièrement, qu'est-ce que l'auteur, ou peut-être pour le dire en français, qui est l'auteur? Et deuxièmement, deuxième question, qu'est-ce qu'un écrivain? Donc, Premièrement, qui est l'auteur? Cette question empirique à laquelle la réponse pertinente est évidemment « ça dépend » renvoie à une autre qui est théorique, dont Foucault empruntait à Beckett cette formulation un peu brutale. Je retraduis en français de la citation que j'ai lue en anglais, donc je ne suis pas sûr de la littéralité, mais je ne sais d'ailleurs pas parce qu'il ne le dit pas, où dans Beckett Foucault avait trouvé cette phrase. Donc une fois retraduit en français, cette phrase est « qu'importe qui parle ». Mais cette formulation n'est pas, je pense, uniformément pertinente, car nous savons bien que ce n'est pas toujours l'auteur qui parle. La vraie question est donc finalement, pour nous, ce soir, la vraie première question, pour moi en tout cas, serait plutôt, nous importe-t-il de savoir qui est l'auteur? Alors j'ai commencé, jadis, de travailler sur la littérature, comme on dit, je ne dirais pas à une époque, mais dans un état d'esprit ou dans une école de pensée, car il y en avait plusieurs, dans une école de pensée où la réponse était clairement non. Il ne nous importe pas de savoir qui est l'auteur. De cette réponse négative que résumait à cette époque le slogan barthésien de la mort de l'auteur, comme vous le savez, c'est le titre d'un de ses articles, d'un des articles de Roland Barthes, les raisons étaient multiples et si j'essaie aujourd'hui de les reconstituer, j'en retrouve au moins quatre. Il y en a sûrement d'autres. La première était que l'attention, parfois exclusive, en tout cas que nous jugions toujours excessive, à la personne de l'auteur, qui était, disons, le fait de l'histoire littéraire dite lansonienne ou sorbonnarde et autres noms d'oiseaux, avait pour effet certainement fâcheux de détourner du texte au profit d'objets biographiques tels que les cannes de Balzac ou les maîtresses de Chateaubriand ou réciproquement, tous objets sur lesquels j'ai été exhaustivement informé au cours de mes études en Sorbonne. Congédier l'auteur nous servait donc à recentrer l'attention, comme elle l'avait été à l'époque classique, sur l'œuvre, considérée dans ce que nous appelions à cette époque, et que j'appelle encore aujourd'hui, son immanence. La deuxième raison nous opposait non plus à l'histoire littéraire, mais à une critique, disons psychologisante, qui parfois n'avait rien de lansonien, celle-là, mais souvent quelque chose de beuvien, et qui faisait de la personnalité, consciente ou inconsciente, de l'auteur le principe interprétatif de toute son œuvre, sans trop tenir compte, par exemple, des diversités formelles ou génériques qui devraient empêcher qu'on interprète de la même manière un poème de Baudelaire et une page de son journal ou de sa correspondance. Congédier l'auteur, c'était ici concentrer l'attention sur les aspects, je dirais, proprement esthétiques de ses écrits. Mais je prononce « esthétique » avec des guillemets dans la voix parce que l'emploi de cet adjectif est pour moi ici, non pas fautif, mais provisoire. J'y reviendrai sans doute. La troisième raison que mentionnait Foucault dans l'article en question et qu'invoquait de son côté Roland Barthes et quelques autres, c'est que la référence à l'auteur a pour effet de réduire, de restreindre, on disait alors volontiers de réprimer, c'était l'époque où il y avait des flics partout, de restreindre par conséquent la pluralité de sens d'un texte supposé indéfini a une signification univoque et déterminée. Le congé à l'auteur se traduisait ici par un rejet de la notion supposée close et quelque peu répressive d'œuvre au profit de la notion supposée ouverte et plus libre, peut-être même libératrice, de texte ou d'écriture. Je vous renvoie à ce sujet à l'article de Roland Barthes qui s'intitule « De l'œuvre au texte » et qui est apparu dans la revue d'esthétique en 1973, celui-là. La quatrième raison est plus technique et propre aux textes de fiction narrative, mais comme vous le savez, des textes de fiction narrative, il y en a. Elle tient à la nécessité où l'on est dans ce type de texte, en face de ce type de texte, de distinguer, entre autres, l'auteur du narrateur, puisque cette distinction, selon moi en tout cas, est en quelque sorte définitoire du récit de fiction. Chez Saint-Simon, le narrateur est sans doute Saint-Simon. Chez Stendhal, dans ses romans, le narrateur n'est pas Stendhal, et ce fait entraîne quelques conséquences pour la lecture et l'interprétation de ce type d'œuvre. Alors, de ces considérations de méthode qui ont, me semble-t-il, motiver l'attitude dite formaliste ou structuraliste, peut-on légitimement conclure, comme le suggère la phrase de Beckett invoquée par Foucault, et comme par conséquent le suggère Foucault lui-même, qu'il ne nous importe définitivement pas de savoir qui est l'auteur d'un texte? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et pour une raison qui tient à un fait plus général qu'a mis en lumière, me semble-t-il, la linguistique contemporaine, c'est qu'un énoncé n'est pas seulement un assemblage de mots et de phrases, c'est un acte de langage défini par une intention et qui ne peut être identifié que par référence à cette intentionnalité. De l'analyse structurale, on passe donc à une analyse pragmatique, qui ne l'invalide nullement, mais qui la dépasse en l'assumant. Sur le plan plus spécifiquement littéraire, puisque la littérature, pour moi en tout cas, est un cas particulier du fonctionnement de la langue, cela signifie qu'on ne peut pas durablement considérer qu'un texte n'est qu'un texte, défini par ses seuls critères internes. Puisque les mots ont un sens, les traits formels conduisent à des traits sémantiques, et les traits sémantiques à des traits contextuels, c'est-à-dire historiques. Un texte ne peut pas être considéré comme un simple objet verbal, parce qu'en dehors de conditions artificielles très spéciales, comme celles de certains jeux surréalistes, il n'existe pas d'objets verbaux qui n'aient été assemblés par une action humaine. En ce sens, il est impossible, comme le voulait Barthes, de substituer la notion de texte à la notion d'œuvre. Elles coexistent, et, ou plutôt parce que, elles ne se situent pas sur le même plan. Nous avons bien toujours affaire à un texte, mais ce texte est le texte d'une œuvre. Et c'est souvent cette appartenance opérale qui lui confère l'essentiel de son sens. Et l'identité de l'auteur est l'un des facteurs de cette appartenance. Je suis obligé de dire l'un des facteurs, parce que l'autre, au risque d'ouvrir un autre débat, ou peut-être une autre série de débats pour une autre année, mais ça n'est pas du tout une proposition, elle ne serait pas très originale d'ailleurs, je suis obligé de dire l'un des facteurs parce qu'un autre, sinon l'autre, est le rôle du lecteur, et que ces deux facteurs sont en interaction constante. Vous connaissez sans doute ce conte de Borges, cité une fois de plus, comment autrement, comme disait Socrate. Ce conte de Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, où un poète français du début de ce siècle, produit un jour, non pas en le recopiant, mais par une sorte de miracle palingénétique, un texte rigoureusement identique à celui du Quichotte de Cervantes. Et Borges n'a pas de mal à montrer que ce texte, produit dans ces nouvelles circonstances, n'a plus du tout le même sens que celui littéralement identique de Cervantes. La même phrase, produite en 1605 et en 1905, n'a pas dans les deux cas le même contexte historique, donc pas le même sens, et donc, entre autres, pas la même fonction littéraire. C'est le même texte, mais ce n'est plus la même œuvre. En termes pragmatiques et mutatis mutandis, ce n'est plus le même acte, et donc plus le même effet, à condition du moins que le lecteur en soit informé. Ce conte, bien sûr, n'est qu'une fable, mais une fable dont la leçon me paraît claire. Quoi qu'on en ait, le même texte ne fonctionne pas de la même façon selon que son lecteur le réfère à tel contexte culturel ou à tel autre. Et l'identité de l'auteur est un des liens qui unissent ce texte à ce contexte. Le même Borges, comme vous le savez, dans le même conte d'ailleurs, suggère que nous ne lirions pas de la même manière l'Imitation de Jésus-Christ si nous découvrions quelle est l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Bien entendu, tous ces exemples sont imaginaires et même fantastiques, mais lirions-nous de la même façon La Princesse de Clèves s'il était établi, comme on le soupçonne parfois, que ce texte est en réalité l'œuvre de La Rochefoucauld? Et lisons-nous de la même façon les lettres d'une religieuse portugaise depuis que nous savons qu'elles sont l'œuvre d'un diplomate français? Lisons-nous une page de la même façon si nous croyons qu'elle est de Balzac ou si on nous révèle que c'est un pastiche de Balzac par Proust? Et ces questions ne sont évidemment pas spécifiques de la littérature. Elles se posent dans tous les arts, et c'est, me semble-t-il, ce qui fait leur intérêt. Regardons-nous de la même manière telle feuille de papier presque blanche, une fois avisé qu'il s'agit là d'un dessin de De Kooning soigneusement effacé par Robert Rauschenberg. Recevons-nous de la même manière une symphonie classique en ut majeur, en l'attribuant banalement à Haydn ou à Mozart, ou en sachant qu'elle est de Georges Bizet ou de Prokofiev, ou pourquoi pas de Schoenberg, puisqu'il a eu le malheur de dire « il y a encore de bien belles choses à écrire en ut majeur ». À toutes ces questions, la réponse n'est pas simple. Je veux dire qu'elle n'est pas simplement négative. Il me semble plutôt qu'elle est double, oui et non, et qu'on peut à peu près la répartir en ces termes que je n'entreprendrai pas de développer. En tant que simple objet esthétique, un texte, comme un tableau, une symphonie, etc., peut être reçu sans considération de son contexte génétique et donc historique, comme nous apprécions une pierre, une fleur, un animal ou un paysage. Mais contrairement aux objets naturels, les œuvres d'art en général, et les œuvres littéraires en particulier, ne peuvent que très difficilement être reçues comme de simples objets esthétiques. Ce sont des objets artistiques, c'est-à-dire historiques, et dont l'histoire de production, comme dit Nelson Goodman, nous importe, pour peu, naturellement, que nous la connaissions. Ce fait, me semble-t-il, nous empêche, même si nous le voulions, de congédier définitivement leur auteur. C'est à ce titre, selon moi, qu'il revient, comme on dit, l'auteur. Mais pour moi, je dirais qu'il n'était jamais parti. L'autre question, je ne l'oublie pas, mais je ne vais pas la traiter. L'autre question était, qu'est-ce qu'un écrivain ? Sous-entendu en termes bartésiens, toujours comme distinct d'un simple écrivain. Cette question-là peut se gloser en celle-ci. Qu'est-ce qui fait d'un auteur un écrivain? Ce qui rapproche les deux questions, sans du tout les identifier. Qu'est-ce qui fait d'un auteur un écrivain? Et nous renvoie évidemment à cet autre. Qu'est-ce qui fait d'un texte une œuvre littéraire, c'est-à-dire un objet artistique, ou pour le moins un objet esthétique? C'est évidemment la question de la littérarité, constitutive ou conditionnelle, question que j'ai essayé de traiter après quelques autres, dans un petit livre récent que je n'aurai ni la cruauté ni le masochisme de tenter de résumer ici. De toute façon, comme dit le poète, les exemples vivants sont d'un autre pouvoir, et nous avons ici un bon exemple de ce qu'est un écrivain, et même un exemple de ce qu'est un bon écrivain, et je suppose qu'il n'aura pas de mal à se définir lui-même.
Merci. Pardon. Je vais maintenant, toujours en ouverture, donner la parole à Renaud Camus. D'ailleurs, effectivement, l'une des questions qui se pose, c'est de savoir si, quel est le rapport entre la personne présente ici est effectivement l'auteur et l'écrivain. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas, évidemment, de soi. Et c'est pas vous, Renaud Camus, qui me démentirez. J'aimerais éventuellement, Renaud Camus, que aussi vous définissiez éventuellement, enfin, votre propre position par rapport à cette question qu'est-ce qu'un auteur, et surtout peut-être que vous reveniez là aussi sur le début de votre travail d'écrivain, avant peut-être, on en parlera tout à l'heure, de parler de ce que j'appelais tout à l'heure là aussi un infléchissement de votre réflexion dans des travaux plus récents, mais je d'autant plus revenir sur vos débuts que d'une certaine façon vous publiez votre premier livre Passage en 1975, c'est-à-dire au fond vous publiez en dehors même des générations, je dirais, d'état civil qui fait que vous êtes un peu plus jeune que Gérard Genette, vous publiez après avoir lu Genette, bon, et après avoir lu Barthes, hein, après avoir lu Ricardou, que vous avez aussi beaucoup cité à ce moment-là, c'est-à-dire vous publiez dans une sorte de référence permanente à tous ces travaux sur la mort de l'auteur, et vous choisissez à ce moment-là cette double stratégie que je définissais tout à l'heure comme intertextualité et hétéronymie, au moins dans les quatre premiers de vos livres que vous avez appelés des églogues. Donc est-ce que vous pourriez revenir sur la façon dont vous perceviez à l'époque cette question, et bon, est-ce que vous en souvenez?
La courte tradition de cette série de débats semble que Gérard Genette vient de respecter semble impliquer que les participants commencent par donner une sorte d'exposé, si l'on peut dire, constitué avant que s'engage un véritable débat entre eux. Et je ne vais pas y manquer, quoique je sois évidemment bien incapable de donner quoi que ce soit d'aussi structuré que ce que vient de vous offrir Gérard Genette. Quant à la façon, en quelque sorte, historique, dont Genette et plus récemment Jean-Pierre Salgas viennent de poser la question, je peux tout à fait y souscrire. Et en effet, enfin, nos histoires, si j'ose dire, sont à peu près parallèles, et j'appartiens en effet à la génération dont les premiers travaux se sont situés à une époque qu'on pourrait appeler de la dissolution de l'auteur. Et au fond, je me suis plié à ça, en accord théorique, mais même idéologique, presque sentimental, parfait. En effet, j'ai pensé que l'auteur n'était pas un concept pleinement pertinent, et qu'en tout cas, le texte en savait plus de l'auteur que l'auteur lui-même, que le texte, en effet, dépasser l'auteur, et qu'en effet ces mécanismes pour une très large mesure lui échappaient et créaient quelque chose ou quelqu'un qui était autre chose ou quelqu'un d'autre que le personnage dès lors hypothétique qui signait l'ouvrage. Donc pour répondre à votre question, je viens bien de la période de l'auteur dissolu. D'ailleurs, je me souviens qu'à des premiers articles qui m'avaient été consacrés, ça m'avait bien plu, portait ce titre, Renaud Camus, un écrivain dissolu. Et je me permets de souligner au passage que j'emploierai ici les termes écrivain et auteur pour la simple commodité de ce court échange de façon qui ne sera pas très théoriquement différenciée. Cela dit, à mesure que le temps passait, le concept d'auteur, comme l'a bien dit Gérard Genette, est revenu comme un fantôme ou comme un refoulé. Et dans mon cas, de façon assez virulente presque, j'ai toujours, pour s'attarder à des considérations superficielles, été très attaché, par exemple, aux droits de l'auteur. Et par exemple, mon mécontentement professionnel a rencontré des coquilles dans mes textes ou des modifications dans les citations qu'on pouvait en faire à gauche et à droite semblait bien impliquer que malgré mes positions théoriques, et j'emploie théorique ici entre guillemets, j'étais très attaché aux droits de l'auteur. Sinon, bien entendu, aux droits d'auteur dont je n'ai jamais vu la couleur que d'une manière un peu floue. peut-être que le retour de l'auteur, dans mon cas, s'est opéré par ce qu'on appelait le biais de l'œuvre, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une conception de l'œuvre au sens global du terme, comme représentant l'ensemble de la production d'un auteur. Et à partir du moment où les différents ouvrages d'un écrivain sont perçus par lui, et de préférence par d'autres que lui, comme participant d'une œuvre, le concept d'auteur revient nécessairement. Dès qu'il y a architecture, il n'est pas tout à fait assuré qu'il y ait architecte, puisqu'il y a certes les architectures sans architecte, mais enfin la question se pose de façon assez forte en ces présupposés. Donc il semblerait y avoir là une contradiction, et si nous l'avons posée en termes historiques, il faut, je crois, maintenant nuancer, parce que cette question est en fait plus complexe que cela, et ce n'est pas en termes historiques ou diachroniques ou dans le temps qu'elle se pose, parce qu'au moment même, bien entendu, où j'étais complètement engagé dans le mouvement favorable à cette idée de dissolution de l'auteur ou dans cette théorie de l'autonomie du texte, déjà, et je crois que beaucoup de passages de mes petits ouvrages de l'époque en témoignent, j'étais très attaché à la figure de l'auteur, et d'ailleurs à la figure même au sens biographique. Et en revanche, aujourd'hui, je continue de penser qu'il y a, pardonnez-moi d'utiliser un terme aussi daté, aussi gentiment désuet, je continue de penser qu'il y a dans le texte, tout simplement dans l'écrit, dans l'écriture, mais nous ne disposons dans ce domaine que de textes, que de termes qui aujourd'hui paraissent bien datés et un peu ridicules. Dans l'écrit, dans l'écriture, dans le texte, il y a une autonomie qui fait que l'auteur est dépassé, contesté et en tout cas surpris par ce qu'il a produit ou par ce qui sort ou ne sort pas de lui. Pour ma part, je n'ai jamais dépassé, au fond, la formule valérienne qui me semble absolument fondamentale et parfaite, qui est la définition de l'auteur que vous connaissez comme étant positivement personne. La question qui se pose étant le poids respectif que nous devons donner à chacun de ces termes. Et peut-être qu'à certaines périodes, j'ai eu tendance à penser que l'auteur était surtout personne, et à d'autres périodes, j'ai eu tendance à redonner tout son poids au terme positivement, car c'est bien positivement que l'auteur est personne. Je vais être obligé de présenter quelques excuses à ceux parmi vous qui pourraient être un peu familiers de ce que j'ai pu écrire, parce que je suis obligé de revenir à une caverne, à la caverne dont je ne suis jamais tout à fait sorti, qui est celle d'Ulysse et de Polyphème. C'est une image qui m'a constamment obsédé et dont je ne vois pas qu'on puisse l'éviter dès lors que se pose la question de savoir ce que c'est qu'un auteur. Inutile de vous rappeler la scène, comme on dit quand on va rappeler une scène. Vous voyez Ulysse dans la caverne du Cyclope. Le Cyclope lui demande comment il s'appelle. Il répond « Je m'appelle personne », ce qui, lorsque plus tard le Cyclope est livré par le vin de Maron et aveuglé par Ulysse et par ses compagnons, criera « Personne est en train de me tuer », fera que les autres Cyclopes dans la montagne riront et ne viendront pas à son secours, ce qui sauvera la vie d'Ulysse, et dans une certaine mesure fondera la littérature, puisqu'aussi bien Ulysse est figure tutélaire, en l'occurrence, de ce que c'est que d'être écrivain, celui qui dit s'appeler personne. Mais là encore, comme dans la formule de Valéry entre positivement personne, je crois que dans cette scène fondamentale de la caverne entre Ulysse et Polyphème, on peut insister plus ou moins sur l'un des termes, tantôt sur personne, tantôt sur positivement, tantôt sur Ulysse, et tantôt, mais c'est plus rare, sur Polyphème, qui est le cyclope, évidemment, multiplié par l'heure, Polyphème, étymologie d'ailleurs abusive, parce que Polyphème veut plutôt dire fameux, celui dont beaucoup de monde parle, mais ce qui voudrait dire aussi, enfin c'est une étymologie qui malgré tout peut être fondée en droit, celui qui a plusieurs voix, celui qui est l'homme de plusieurs paroles, celui qui a un œil en moins, mais qui, pour revenir à l'illustre formule d'Hölderlin, à plusieurs reprises d'ailleurs citée par Genette, qui a aussi, semble-t-il, un œil en trop. Je dirais de façon un peu provocante, pour en revenir à la question, qu'un auteur, c'est moi. Mais moi, dans la mesure où, justement, je ne suis pas tout à fait sûr d'être moi, je crois qu'un auteur, c'est l'être de l'identité problématique. Jean-Pierre Salgas citait le beau texte tout à fait essentiel de Genette qui s'appelle Stendhal ou Stendhal, car la question se pose également, ce qui est déjà une ambiguïté dans le nom, Stendhal entre guillemets, qui pose ce genre de questions et qui parle de Stendhal comme étant Henri Bell, Henri Brulard, Dominique et bien d'autres gens, et en tout cas quelqu'un qui ne semble pas savoir ou qui ne semble pas vouloir être précisément quelqu'un. Si je puis me permettre d'attirer un instant l'attention sur mon cas particulier, moi-même j'ai par définition une identité problématique parce que depuis toujours, quand on me demande mon nom, je réponds Camus, sur quoi tout le monde répond « Ah oui, comme l'écrivain ou comme l'autre ». Ce n'est pas fini. Si, par exemple, la question suivante est « D'où êtes-vous ?», j'ai le malheur de devoir répondre de chamalière, ce qui suscite également le rituel « comme l'autre ». Donc, je suis, par définition, « comme l'autre ». Et j'aime assez cette définition de l'écrivain. L'écrivain est celui qui est comme l'autre, ou en tout cas qui est pas tout à fait celui qui est, qui a un problème avec son nom, ça je le crois fondamentalement, la question du nom que Barthes appelait la voie royale du désir, et peut-être aussi la voie royale du désir d'écrire, et celui qui ayant un problème avec son nom a encore une fois un œil en moins ou un œil en trop. Une autre formule que j'aime beaucoup, qui m'a toujours intéressé, est celle de « auteur de mes jours ». Je me demande si l'écrivain ou si l'auteur n'est pas celui qui, encore une fois, pardonnez cette terminologie bien usée et un peu ridicule, celui qui, dans une certaine mesure, refusant le père, désire être lui-même l'auteur de ses jours. À la question éternelle et inévitable de la biographie, j'ai eu tendance à opposer, et je demande encore pardon à ceux qui ont déjà subi mes théories par définition fumeuses sur cette question, le concept de graphobie, qui bien entendu ne doit pas être confondu avec la graphophobie, qui est même tout son contraire. La graphophobie serait l'horreur d'écrire, dont Dieu sait malheureusement que je ne suis pas atteint. La graphophobie serait, dans une certaine mesure, donc l'opposé ou le contraire de la biographie, mais c'est-à-dire le désir d'écrire sa vie, de percevoir la vie, l'existence, comme une écriture, les jours comme un terrain d'écriture. La forme vulgaire de ceci étant, bien entendu, le journal, qui, en effet, quand il prend surtout des proportions déréglées, abusives et même délirantes, comme c'est mon cas, finit par coïncider avec l'existence même, puisqu'il remplit totalement les journées, ou presque, mais plutôt une conception de la vie comme un objet d'écriture, c'est-à-dire la tentative d'établissement d'une sorte de maîtrise octoriale, c'est le cas de le dire, sur l'existence par le moyen ou par le biais de techniques qui seraient celles de l'écriture. Ici se trouve évidemment mise en question ce qu'on a pu appeler le fétichisme de l'œuvre, puisque dès lors, par la graphobie revient tout de même la biographie, et il semblerait que ce que crée l'auteur, ce n'est plus seulement ses œuvres, ses livres, mais l'ensemble de son existence, et dès lors, la vieille critique lansonienne ou sorbonnarde, comme disait tout à l'heure Gérard Genette, reprend une sorte de légitimité que, pour ma part, je ne lui ai d'ailleurs jamais tout à fait contesté. Ou, pour être plus juste, pour ma part, je lui ai toujours voué une sorte d'attachement sentimental et un peu léger. Pour moi, par exemple, Jean-Pierre Salgas disait tout à l'heure est-ce qu'il importe ou non de savoir si Homère était aveugle ? Je dirais que pour moi, il importe fort, de sorte que même les Cannes de Balzac ou les Maîtresses de Chateaubriand, ou réciproquement, m'intéressent extrêmement. Je suis contre le fétichisme de l'œuvre, mais je suis contre également le fétichisme de ce qui a été la modernité et qui voulait qu'on ne s'intéresse qu'à l'œuvre. Certes, je ne crois pas que la biographie va donner le dernier mot de l'œuvre, bien loin de là. Au contraire, je crois les choses beaucoup plus légèrement que cela. Et je crois que l'auteur, l'œuvre, sa vie, sa vie.